Nous avons donc parlé effectivement à travers l'épître de Paul aux Galates. Nous avons parlé évidemment effectivement de deux chemins. Les deux chemins que nous pouvons suivre en tant que chrétiens. En fait, mon projet est vraiment de nous encourager cette année à marcher de manière vraiment comme le Seigneur le demande, de manière digne du Seigneur. Et c'est un peu une motivation qui est due au fait que je me rends compte de plus en plus que vivre en tant que chrétien devient quelque chose de difficile dans nos sociétés. La difficulté, elle est double. D'un côté, nous avons une pression de l'extérieur. Les gens du monde qui de plus en plus dénigrent Dieu trouvent que c'est des choses de plus en plus qui n'en valent pas la peine, que vraiment croire, c'est vraiment être vraiment dans, même pas dans l'Antiquité, mais vraiment à l'époque de l'âge de Pierre. Hein. Et donc, il y a d'un côté cette pression du monde qui déconstruit chaque jour la pensée de Dieu, qui déconstruit chaque jour le message de l'Évangile, qui déconstruit chaque jour la manière dont on doit regarder Dieu. Si vous êtes un peu intéressé, vous allez voir que les scientifiques s'amusent à détricoter la pensée biblique, à prendre ce qu'ils ont envie et à reconstruire en quelque sorte la pensée de Dieu à leur sauce. Ça, c'est d'un côté la pression du monde, la pression de l'extérieur qui vient s'imposer sur les chrétiens, les obliger à être déstabilisés. Mais l'autre problème, et je crois aussi que c'est un problème dont on ne se rend pas compte, c'est aussi le problème de l'intérieur. À l'intérieur, dans notre vie de chrétien, où, évidemment, il y a des décalages entre nous qui font que, parfois, la vie chrétienne devient un véritable terrain, non pas où les gens se mettent ensemble pour s'unir et avancer, mais non, ça devient un véritable terrain d'affrontement entre les enfants de Dieu qui se rentrent dedans, qui se tapent dedans, parce que simplement, il y a trop de décalages, il y a l'influence du monde, mais aussi, il y a la manière dont, à l'intérieur, nous vivons notre vie de chrétien. Et dans tous les cas, vivre aujourd'hui en tant que chrétien est quelque chose de difficile. C'est pour cela que la fois passée, la fois avant ce dimanche, donc avant dimanche, avant, on avait encore parlé déjà de la marche chrétienne là, et j'avais déjà dit à ce moment-là que la seule façon de réussir notre marche en tant que chrétien, c'est d'être enraciné, c'est d'être fondé en Jésus-Christ. J'avais évoqué l'idée de l'enracinement comme l'idée de l'arbre qui a des racines et l'idée de fonder comme une maison qui bâtit sur un fondement solide, ce fondement étant Christ. J'avais dit aussi que c'est pas moi qui le dis, c'est le texte de Colossiens à ce moment-là que j'avais utilisé, qui le disait. Aussi, être affermi dans la foi, avoir une foi affermie, avoir aussi une persévérance et être toujours, toujours en mesure de rendre grâce à Dieu. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce que notre fondement, notre façon de marcher, notre marche chrétienne, quand je parle de marche chrétienne, évidemment vous comprenez que je veux dire la vie chrétienne, le fait de vivre sa vie en tant que chrétien, la vie de chaque jour en tant que chrétien. Et notre marche chrétienne ne peut être une marche fructueuse. Et j'avais dit que j'avais choisi l'option fructueuse, c'est pas des mots que je dis en l'air, c'est parce que, justement, derrière le mot fructueux, il y a cette idée que ce n'est pas le fruit de nos efforts à nous qui doit aboutir à ce que nous réussissions notre marche. Nous devons devenir un terrain sur lequel le Saint-Esprit agit. Que notre réussite soit la collaboration entre nous et le Saint-Esprit. Et pas nous-mêmes qui portons, nous produisons par nous-mêmes. Nous verrons ça, nous allons revenir sur ça avec le texte qu'on va lire aujourd'hui. Et donc, la fois passée, je disais que tout chrétien doit veiller sur sa marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours deux chemins possibles. Un chemin que j'ai décrit comme étant un labyrinthe. Un chemin dans lequel on rentre et on n'en sort pas. On cherche et on est sans issue. Le chemin est quasi impossible à trouver. Et puis j'ai dit qu'il y a l'autre chemin. C'est un sentier celui-là, mais c'est un sentier que nous pouvons emprunter avec un guide qui est devant nous et qui nous montre le chemin. Donc deux chemins. Le chemin marcher selon les désirs de la chair et marcher selon l'esprit. Marcher selon les désirs de la chair, c'est comme emprunter un labyrinthe dans lequel on tourne en rond, on ne s'en sort pas. On n'a que des frustrations et on a l'impression que sa vie chrétienne est une vie complètement triste, nulle. Et l'autre chemin, marcher selon l'esprit, c'est marcher comme sur un sentier avec un guide devant nous qui nous montre le chemin. Et je disais aussi que les chrétiens doivent chaque jour demander que le Seigneur nous affermisse leur foi sur le chemin avec l'esprit. Et c'est le choix à faire et le texte que nous avons lu la fois passée, que nous relisons aujourd'hui, nous indique cela justement, que nous avons à choisir de marcher selon l'esprit. C'est le chemin de la liberté. C'est le choix pour la liberté. Et c'est vrai que la liberté est un thème majeur dans l'Épître aux Galates. Un des thèmes majeurs de l'Épître aux Galates, à savoir la question de la liberté face à la loi. La liberté que nous avons en Jésus-Christ, nous savons que Galates dit c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Alors nous allons prendre le texte, nous allons le lire, nous allons prier et nous allons continuer. Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie, c'est ça, en nous portant envie, c'est tout, il s'arrête là. En nous portant envie les uns les autres. La liberté, c'est pour cela que Christ nous a appelés. Nous avons été appelés à la liberté, mais Christ nous dit, l'apôtre Paul dit, mais ne faites pas de la liberté, de cette liberté, un prétexte pour vivre selon la chair. Il est vrai qu'un chrétien ne peut pas compter sur ses propres forces pour vaincre la chair et vivre de manière à glorifier Dieu. Impossible. De par nous-mêmes, humainement, nous pouvons avoir la volonté, nous pouvons avoir l'intention, mais nous n'avons pas la force. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour pouvoir gagner, aller de l'avant, être vainqueur. Ce matin, je voudrais compléter le tableau où j'ai décrit donc les deux chemins, les deux marches. Je voudrais vraiment compléter le tableau afin que notre choix pour la vie, la marche selon l'Esprit, soit véritablement basé sur certains arguments bibliques, certains constats. Et j'ai juste deux constats que je vais mettre devant vous à la lumière de ce texte qui pourraient servir d'argument à la faveur d'une marche selon l'esprit. Premier constat. Oh là là. Premier constat. La liberté en Christ ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut. Ok? C'est ce qu'à peu près le verset 17 dit, n'est-ce pas? Ouh. Voilà, la belle collaboration avec M. Christophe. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La liberté chrétienne ne consiste pas à faire ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que il y a une guerre, une dualité, un conflit à l'intérieur de nous, les humains. Conflit entre la chair et l'esprit, entre la loi de Dieu et la nature charnelle. C'est un conflit en permanence. L'esprit en nous combat la chair, et la chair combat l'esprit. Et c'est en permanence comme ça. Alors, comme il y a cette guerre-là, nous n'avons pas la liberté pour faire tout ce qu'on veut, comme on veut. La liberté, donc, ce n'est pas le fait de faire ce qu'on veut, comme on veut. Or, que dit notre société? Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Être libre, c'est disposer de la marge de manœuvre pour faire exactement ce que je veux, comme je veux. Évidemment, la morale sociale va vous ajouter quand même que vous êtes libre, mais vous assumez les conséquences de votre liberté. Mais vous avez la possibilité de savoir que vous devez vous-même établir une propre loi, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Vous avez la capacité de pouvoir vous-même instaurer des lois qui vous arrêtent pour ne pas exagérer, aller du mauvais côté de l'usage de la liberté. C'est ce que la société nous apprend. Mais la liberté, c'est pas ça. La liberté, d'après l'Épître aux Galates, la liberté, c'est notre capacité à pouvoir vivre avec Dieu. Notre capacité à être avec Christ, à servir les autres, à les aimer. Notre liberté vient du fait que nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Avant, nous étions des esclaves, incapables de pouvoir aller dans un sens ou dans un autre. Mais en Christ, nous avons été libérés, pas pour pouvoir vivre comme on veut exactement, non, mais nous avons été libérés pour pouvoir vivre avec Dieu, vivre selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a ce texte qui dit, tu as la référence de 1 Corinthiens 6, qui montre très bien la notion de la liberté avec Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir, c'est-à-dire redevenir esclave. Encore, il y a l'autre version qui n'est pas ici, qui dit « tout m'est permis, mais tout n'édifie pas ». La liberté, ma liberté en tant que chrétien, consiste à pouvoir me mettre en œuvre pour être utile. Utile à l'œuvre de Dieu, utile à l'Évangile, pour édifier ma vie chrétienne et celle des autres. Pour grandir dans ma relation avec Dieu et pas pour me remettre sous l'esclavage du péché dans lequel j'ai été libéré. Faire la volonté de Dieu, c'est ça que le péché a empêché pendant des années avant notre conversion. C'est ça que Christ rend possible à la croix. C'est ça que nous devenons à nouveau. Alors le chrétien a donc comme tâche de veiller à l'exercice de sa liberté. Ça, c'est notre tâche. Veiller à ce que nous puissions exercer notre liberté. Tout m'est permis. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Contrairement à ce qu'on enseigne aux gens, on dit que vous, les chrétiens, vous êtes des vrais esclaves. Vous ne faites plus rien. Vous ne faites même plus rien. Vous n'avez plus de raison de rigoler, de célébrer votre vie, d'être heureux. Faux. Nous avons la possibilité de le faire. Mais nous avons un filet. Nous avons une limite. Nous avons un cadre. Nous avons des balises. On ne peut pas le faire n'importe comment. Ma liberté, tout ce que je peux faire, tout ce qui m'est permis de faire, doit être toujours soumis à la réflexion. Est-ce que ça me permet de continuer à être chrétien? Est-ce que ça me permet de garder toujours le témoignage chrétien? Est-ce que ça me permet de continuer ma relation vivante avec Dieu? Ou est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Quand ça m'éloigne de Dieu, alors je ne peux pas faire ça. Mais pour le reste, alors vous comprenez, on doit prendre le contraire, on doit prendre la dimension contraire. Au lieu de dire, le chrétien, ça ne fait pas ça, 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 c'est ce qu'on fait habituellement. On est toujours dans une morale un peu, je dis, du style un peu légaliste comme ça, vous voyez. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. On doit plutôt réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire qui reste dans le cadre de ce qui glorifie Dieu? Est-ce que prendre des vacances, aller au Club Med, est-ce que c'est mal? Est-ce que ça m'empêche de rester chrétien? Si tu réponds par non, eh ben tu peux aller au Club Med. Est-ce que boire le Coca-Cola, ça me permet d'aller en enfer? Ça m'éloigne de Dieu? Non, je peux boire mon Coca-Cola. Voyez, et on peut faire comme ça des tas de règles. Or, nous faisons le contraire. Nous fixons des règles. Alors, évidemment, quand quelqu'un rentre ici, s'il n'est pas conforme à la règle qui est demandée, eh ben, il n'a pas vraiment sa place parmi nous, hein. C'est un païen, hein. Alors, à ce moment-là, on va recevoir plein de païens qu'on va foutre à la porte parce qu'ils n'ont pas leur place parmi nous. Je me souviens de cette église où j'avais été avec Louise. On rentre dans le seuil. Quelqu'un court vite et il met un foulard à ma femme. Ici, on prie avec le foulard. Je lui ai dit, t'as vu ça où dans la Bible? Ah oui, mais 1 Corinthiens 11, la femme doit être voilée. Je lui ai dit, ah, et la chevelure de la femme, là, c'est pas écrit que... Oui, mais, c'est la règle ici chez nous. Vous voyez? On peut se disputer pendant des jours et des jours comme ça. Notre liberté, notre tâche, est de vivre notre liberté au profit de Dieu et au profit de nos frères et sœurs. On est là pour utiliser notre liberté pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Et quand on a compris ça, on a compris qu'effectivement, alors, c'est ça la marche chrétienne. C'est ce qui doit motiver notre façon de marcher avec Dieu durant cette année. Je profite de cette liberté que j'ai. J'ai du temps devant moi. J'ai des idées. J'ai des moyens. J'ai de l'espace. Pourvu que ce que je fais, je regarde si ça c'est conforme, si ça me garde dans le Seigneur. Et si j'ai des hésitations, stop. J'attends d'abord d'être sûr et puis je le fais. Première chose, premier constat que je voulais relever ce matin pour nous encourager à vivre notre vie. À profiter de notre liberté, à nous savoir libres et pas des personnes qui vivons sous des contraintes, un ensemble de lois, comme une morale. Ne vous regardez pas comme ça, mais regardez-vous comme des gens qui sont aimés par Dieu, des enfants. Vous avez déjà vu un petit enfant en train de jouer devant ses parents? Il court dans tous les sens, il s'amuse. Parfois, il réalise même pas le danger, il court. C'est les parents qui doivent dire, hey, stop, fais attention là-bas, tu vas te cogner. Attention, tu vas tomber. Mais l'enfant, il vit. Soyons comme des enfants. Nous croyons que notre Dieu est avec nous et nous voulons vraiment vivre notre liberté avec le Seigneur. Mais nous n'oublions pas une chose. Cette liberté, elle est possible. Elle est possible seulement avec la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que au-dedans de nous, il y a un conflit majeur. Il y a une guerre perpétuelle entre notre nature pécheresse et la loi de Dieu. Et cette guerre fera que nous sommes toujours susceptibles de commettre des erreurs, de faire des mauvais choix. Et c'est là qu'on a besoin de ce guide, le Saint-Esprit, pour nous montrer, un peu comme un père avec ses enfants ou une mère avec ses enfants, qui est là pour dire aux enfants, attention, attention, faites attention à ça. La route, elle est là. Voilà, regardez bien, réfléchissez bien. Un guide, quelqu'un qui est là pour nous montrer le chemin. Et le Saint-Esprit, c'est le guide parfait. Je ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit parce qu'on va en parler dans le deuxième constat. Le deuxième constat, premier constat donc, que la liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut comme on veut, n'est-ce pas? Deuxième constat, le chemin selon les désirs de la chair a pour effet la production des œuvres de la chair. C'est ce qui est écrit au verset 18, c'est ça? mon Christophe. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Hein? Oui, allez, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Donc, le chemin selon le désir, la marche selon le désir de la chair, conduit à produire des œuvres de la chair. Je ne vais pas passer mon temps à parler de chaque œuvre de la chair ici, mais voilà, je voudrais juste parcourir, réfléchir sur cette idée des œuvres. Et le chemin selon l'esprit, la marche selon l'esprit, ça c'est plus loin au verset 22, produit plutôt le fruit de l'esprit. D'un côté, avec la chair, on produit les œuvres, c'est-à-dire le résultat de nos efforts, de nos peines, de notre action, parfois aussi de nos envies, de nos erreurs. Et quand je dis nos erreurs, nos envies, nous, je ne veux pas dire spécifiquement vous ici, je veux dire nous en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire quand nous vivons sans Dieu, livrés à nous-mêmes, avec nos propres lois, avec nos propres règles. Et lorsque nous sommes ainsi, eh bien, nous produisons des œuvres. C'est quelque chose qui vient de nous. Et Paul va dire, ces œuvres-là sont évidentes, c'est-à-dire qu'on peut les voir, on peut les connaître. Je voudrais relire avec vous ce texte, mais dans la version Parole de vie, que je trouve vraiment très, très, très intéressante. Donc, verset 19. C'est que les désirs mauvais, c'est comme ça qu'ils disent, hein, ils parlent de désirs charnels, lui dit désirs mauvais. C'est que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Alors, regardez comment lui, il explique ça. Dans toute la liste qu'on a vue là. Tu peux mettre le, comme ça, vous regardez la liste et vous voyez comment lui, il explique, comment il rend compte de ça. Ok? Donc, la liste, à partir du verset 19, là, tu mets de 19 jusqu'à 21, je pense, hein. Voilà. Eh bien, toute cette nomenclature là qu'il cite, il résume ça dans quelques phrases. Il dit ceci. C'est que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent donc les gens qui vivent selon cela, donc les gens du monde en général, ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent des faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, comme je l'ai dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Alors la question à dessous, évidemment, pour nous, ce matin, est-ce que ça nous concerne, ça? Est-ce que ça s'applique à nous, ça? La réponse, elle est simple. Non, ça ne s'applique pas à nous. Parce que notre salut est acquis. Et nous sommes conséquents avec nos choix. Il peut y avoir des difficultés dans l'un ou l'autre domaine. Mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Et nous avançons avec l'aide de Dieu. Pourvu que nous voulons avancer. Nous voulons aller de l'avant, vaincre nos difficultés qui sont encore là. Ce que nous avons hérité, vous savez, quand on se convertit, ce n'est pas pour ça que on devient extraterrestre. Hein? Si j'avais des difficultés avant ma conversion, ça se peut que je traîne encore pendant des années les difficultés que j'avais. Si je me suis converti, que j'avais des difficultés avec la colère ou avec je ne sais pas moi quoi, eh bien je peux encore garder ces choses-là pendant un certain temps. Mais ma marche avec l'esprit va tout doucement d'abord, un, me faire prendre conscience de ce que je suis devenu, et puis de deux, m'emmener dans un processus où je vais demander à Dieu et obtenir d'être complètement délivré, libéré de cela. C'est une marche dans laquelle je suis. Donc, Est-ce qu'une telle chose, une telle vie s'applique à nous les chrétiens? Non. Non. Mais, il y a toujours un danger qui guette. C'est pour ça, regardez au verset 26. Tu peux remonter. Je te fais travailler, excuse-moi Christophe. Mais voilà, voyez, regardez le verset 25 et 26. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Sous-entendu, quelqu'un peut être sauvé, vivre par l'esprit, mais, enfin je dis, avoir le Saint-Esprit, avoir Dieu avec lui, mais ne pas vivre selon l'esprit, ne pas marcher selon l'esprit. Et puis, deuxième chose, un deuxième danger, il est là, c'est que nous avons le risque de vivre des rapports difficiles entre nous. Vous voyez, l'orgueil. Ne cherchons pas une vaine gloire. L'orgueil. Les querelles. La jalousie. C'est des choses qui peuvent encore nous menacer. Bien que nous sommes des chrétiens, bien que nous vivons dans des communautés chrétiennes, nous devons veiller à ça. C'est dans ce sens-là que, évidemment, le message nous interpelle. Dans le sens que, attention, nous devons veiller sur nous. Veiller chacun sur nous pour que nous ne laissions pas à des espaces pour l'orgueil. L'orgueil, je pense, que c'est une des choses qui est la plus difficile pour les chrétiens. Parce que l'orgueil est sournois. On ne le voit pas, l'orgueil. L'orgueil se cache sous des habits différents. Il peut se cacher derrière la fausse modestie. Il peut se cacher derrière l'envie de servir les autres. Il peut se cacher dans l'envie de diriger les autres. Il peut se cacher derrière beaucoup de choses, l'orgueil. Mais travaillons dans nos cœurs à combattre l'orgueil. Les querelles sont les fruits des divergences d'opinion, les fruits du fait que j'essaye de faire passer mes idées, j'impose mes règles. Et parce que j'impose mes règles, les gens refusent, ils n'acceptent pas cette imposition et donc, conflit. Mais quand quelqu'un n'a pas à s'imposer, quand quelqu'un ne cherche pas à s'imposer, quand quelqu'un est disposé à dire, ok, tu veux qu'on fasse comme ça? Ok, pas de souci, on peut le faire comme ça aussi. Si quelqu'un est là pour dire, ok, ça, c'est, je suis pas très très d'accord avec ça, mais voilà, je donne mes arguments pour lesquels je suis pas d'accord avec ça, mais pour le reste, si vous voulez qu'on le fasse, on le fait. On n'aura pas de querelle. Les querelles, c'est parce que on a des idées et on veut faire passer ces idées par la force. Parce que on n'est pas d'accord. Et on veut affirmer sa position. Combien de fois le livre de Proverbes ne nous met pas en garde contre les querelles? On nous dit même que si tu rencontres une femme querelleuse, ça on dit, une femme querelleuse, fuis, ne reste pas. Parce que c'est une calamité, c'est une catastrophe. Bon oui, c'est vrai que le livre de Proverbes est un peu machiste. Il choisit les femmes, hein. Il y a aussi des hommes querelleurs, hein. Vous n'en faites pas. Hein. Il y a aussi des hommes qui peuvent vous faire aussi. Vous devriez fuir normalement aussi pour ça. Mais voilà, les querelles, c'est parce que nous ne donnons pas la place aux autres. Et puis, l'envie, la jalousie. La jalousie est aussi un phénomène qui existe aussi parmi les chrétiens. Pourquoi l'autre réussit bien? Pourquoi c'est toujours l'autre qu'on entend? Pourquoi c'est toujours lui, ça va bien chez lui? Et pourquoi pas moi? Je me souviens encore d'un jeune qui, à l'église d'Auvelay, qui voulait absolument être responsable. Vous savez, moi j'ai toujours eu le souci, en tout cas dans mon ministère, de faire en sorte que petit à petit les jeunes accèdent à des responsabilités, qu'ils apprennent à servir. Et je me suis tombé sur un jeune qui a bien compris mon message et il voulait absolument devenir responsable. Et puis un jour, il m'a dit, mais oui, mais pourquoi tu ne me laisses pas servir comme les autres? Et moi, je suis aussi capable que eux. D'ailleurs, l'autre, là, il est incompétent et moi, je suis plus capable. Je ne me fâche pas beaucoup, je me fâche rarement. Là, je me suis retourné, j'ai dit, jeune homme, tu ne seras pas responsable. Pas avec moi. Parce que tu as dans ton cœur de la jalousie. Et ça, tu ne peux pas servir. Quand tu as de la jalousie dans ton cœur, comment veux-tu servir les autres? Mais nous, les chrétiens, nous sommes menacés par ça, mes amis. Nous devons veiller. Nous devons veiller sur ça aussi, parce que c'est un vrai danger. Donc, désir de la chair, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres, c'est-à-dire ce que nous produisons. Et c'est évident, les gens du monde vivent comme ça. Ce que je viens de lire ici, c'est la réalité quotidienne à laquelle nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours. Et les gens en font même une, comment on dit ça, c'est même un culte de la vie, c'est même la façon de vivre, hein, n'est-ce pas? Allez, je peux prendre n'importe quoi au hasard. Vous allez voir que chaque fois, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Ah, mais voilà, ma feuille, elle a disparu. Elle est partie se cacher. Ah, elle est se cacher là derrière. Voyez? Par exemple, les gens se divisent en parties ou en groupes. Vous savez qu'en sociologie, il est démontré que le progrès de notre société dépend des rapports conflictuels entre les individus. C'est démontré. Pour la société, c'est une bonne chose d'avoir des conflits entre les gens. Parce que, soi-disant, c'est comme ça que les gens avancent, évoluent. Il y a des tas de choses comme ça. Mais parlons plutôt du fruit de l'esprit. Nous avons vu que le chemin, la marche conduite par l'esprit produit le fruit de l'esprit. Et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'aime bien le mot fruit. Vous voyez, œuvre, fruit. Le fruit, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose que l'on peut consommer. C'est quelque chose que l'on peut utiliser. Le fruit, en général, a une semence à l'intérieur qui peut permettre que l'on puisse le reproduire. Le fruit est quelque chose que je peux partager avec les autres. Le fruit, c'est le produit d'une transformation intérieure. Le chrétien ne produit pas le fruit par lui-même. C'est ça que l'apôtre Jean dit, n'est-ce pas, dans Jean 15. Le fruit, nous ne faisons que le porter. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la manifestation du caractère de l'Esprit dans nos vies. C'est le fruit de la collaboration, le fruit du fait qu'on est enraciné dans l'Esprit, on est fondé dans l'Esprit, et alors la sève, la vie de l'Esprit se manifeste à travers le fruit. Tout ce qu'un homme doit faire dans ces conditions-là, c'est de faciliter le travail de l'Esprit. C'est de collaborer pour que le Saint-Esprit fasse son travail. C'est de se laisser transformer. De se laisser transformer à l'intérieur. De laisser la transformation intérieure de notre être intérieur pour que nous puissions aller à la ressemblance de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi que qu'est-ce que vous préférez entre un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui parle en langue, qui fait des miracles, il étend la main comme ça, tout le monde tombe, il fait comme ça, et il a l'air tout puissant, extraordinaire. Cet homme-là, mais qui, quand il rentre chez lui à la maison, il divorce avec sa femme, et il bat ses enfants, il est rempli d'orgueil, il n'écoute personne, hein, mais il fait des grandes choses pour Dieu. Entre un homme pareil et un autre, inconnu, anonyme, mais quand vous le voyez, un peu comme Sadhu Sundar, vous connaissez l'histoire de Sadhu Sundar? Ben vous me regardez comme... Vous ne connaissez pas Sadhu Sundar? Ah, c'est là que j'aime bien être un peu plutôt du côté des personnes âgées, moi. J'aime bien. Sadhu Sundar, c'est un Indien qui s'est converti, et la conversion était tellement forte que quand il allait pour évangéliser, on croyait que c'était Jésus-Christ lui-même qui était là. Il a fini par ressembler à Jésus. Quand on le voyait, on pensait que c'était Jésus qui était là. Voyez? Qu'est-ce que vous pensez entre quelqu'un qui est très puissant dans son ministère, qui fait des tas de trucs extraordinaires, qui bâtit des églises, et qui fait ceci et qui fait cela, avec beaucoup de failles dans sa vie, et puis cet homme, tout inconnu, tout simple, Mais quand on le voit, quand on vit avec lui, on dit « Waouh, Dieu est vivant à travers cet homme ou cette femme. » Qu'est-ce que vous allez préférer? Vous ne me répondez pas? Le deuxième? Ah, quand même. Hein? C'est la réalité. Parce que le but de l'Esprit, le but du Saint-Esprit dans nos vies, ce n'est pas de nous combler des dons spirituels. Oui, il nous donne des dons. Il nous donne des dons pour le service, dans l'Église, dans son œuvre. Mais la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est un travail de transformation intérieure. C'est un travail où nous commençons à reproduire les caractères de l'Esprit. Et ça, c'est notre travail, de faire en sorte que nous facilitions l'accomplissement, la réalisation de ça. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il promet à ses disciples, il dit quoi? Je ne vais pas vous laisser seuls, mais je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il vous enseignera. Il complétera tous les enseignements que je vous ai donnés. Il vous parlera de moi. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira toute la vérité. Ça sera votre partenaire, votre ami, celui qui va favoriser votre changement profond, votre métanoïa. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Et ici, nous voyons ce travail. Mais nous avons le choix. C'est à nous de pouvoir faire ce choix-là, de favoriser le travail du Saint-Esprit. Et ce matin, je voulais vraiment, à travers ces deux constats, nous exhorter à nous attacher à Dieu, à nous servir de notre liberté pour non pas vivre n'importe comment, vivre selon notre société. Méfions-nous. Vous savez, c'est Jean-Pierre Van de Voorde qui me le disait souvent, et il a raison. Il disait toujours, si le monde va dans ce sens-là, sachez que sûrement le bon chemin pour Dieu, c'est dans l'autre sens. On va dans le sens opposé. Et on peut réfléchir chaque fois devant nos propres choix de tous les jours. Qu'est-ce que je choisis? Comment je choisis? Et le monde peut m'aider parce que si le monde choisit tel type de valeur, je sais à peu près que c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Notre liberté doit nous servir à nous rapprocher de Dieu, à vivre avec Dieu et à servir les autres, à vivre avec les autres et à les servir. Nous avons à regarder non pas à développer les œuvres de la chair, d'ailleurs on ne peut pas si on est vraiment chrétien et qu'on a choisi Christ. On peut cependant être menacé par ça, parce que nous avons toujours la nature charnelle qui dort en nous et qui peut toujours à tout moment nous pousser dans un sens. À nous de veiller sur ça, de veiller sur l'orgueil, de faire attention aux disputes, faire attention à la jalousie, ne pas être nonchalant, ne pas être quelqu'un qui laisse faire les choses, qui accepte tout du monde, mais quelqu'un qui réfléchit par rapport aux valeurs de ce monde. Pas quelqu'un qui est conformiste, qui se conforme à tout ce qui se passe dans notre monde, qui a dû laisser aller, mais vraiment quelqu'un qui fait attention, parce que la chair, elle est là. La chair, elle est faible. Elle est là. Par contre, nous avons à développer notre vie de l'Esprit, notre vie avec le Saint-Esprit. Et on l'avait déjà dit la fois passée, le dimanche passé, comment est-ce qu'on peut favoriser la relation avec le Saint-Esprit? Marie-Luce a aussi invoqué cela aussi dans sa présidence, puisqu'elle a dit qu'elle a commencé en disant qu'elle a à cœur de plus en plus de vivre une vie où elle se rapproche de Dieu, où elle veut développer une plus grande proximité avec Dieu. C'est ça la clé, une plus grande proximité à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers le service des autres, à travers l'humilité. L'humilité, c'est l'antidote contre l'orgueil. Et quand on commence à apprendre cela, quand on laisse Dieu, on le supplie dans la prière, d'être toujours avec nous, de nous guider, de nous changer radicalement. Et si on est ouvert à ça, on n'est pas quelqu'un qui s'oppose. Il y a des gens, quand on commence à leur dire « ça ne va pas chez toi ici », boum, c'est la guerre. Mais apprendre à écouter et dire « oui, ok, si tu me reproches ceci, peut-être c'est fondé, je vais voir dans le secteur dans le Seigneur qui s'est fondé. Apprendre à faire cela nous permettra de plus en plus de confier nos vies entre les mains de Dieu et d'être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est le guide qui va nous mener tout au long de l'année, qui va nous mener tout au long de notre vie en général. Il va nous aider, il va répondre à nos questions, il va résoudre nos problèmes avec nous, il va nous entourer, nous aider à être efficaces pour l'œuvre de Dieu. Puissions-nous, en tout cas, cette année et encore plus tard, puissions-nous vraiment nous engager pour le Seigneur et marcher avec lui, en nous laissant guider par lui, en nous laissant conduire par lui. Prions. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ, la liberté par laquelle tu nous fais grandir et nous fais avancer. C'est vrai que tu as besoin non pas que des robots s'avancent vers toi, tu n'as pas besoin que ce soit des gens qui soient sous des contraintes légales, mais tu veux des gens qui librement tendent les mains vers toi, librement te servent, librement te cherchent, librement viennent à toi et vivent pour toi. Seigneur, apprends-nous encore à laisser le Saint-Esprit guider nos vies. Apprends-nous encore à vivre notre vie de liberté en toi. Apprends-nous encore à fuir les œuvres de la chair et tout le danger que ça représente. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi durant cette année encore. Au nom de Jésus. Amen.